Oui, mais cher collègue, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui que nous n'avons heureusement pas connu de nombreuses années auparavant, c'est que cette discussion budgétaire à la fin de laquelle nous arrivons se déroule dans un contexte national et européen tout à fait dramatique, qui est marqué par les attentats islamistes à Bruxelles que nous venons de vivre et de subir en tant qu'Européens. Chaque fois que des événements de cette nature se produisent, eh bien, on connaît désormais le scénario, parce que malheureusement, il est répétitif, ce scénario. Il y a des minutes de silence et de recueillement, comme nous l'avons fait tout à l'heure au début de notre réunion. Il y a des drapeaux qui sont mis en berne. Il y a des cérémonies d'hommage. Il y a des jours de deuil qui sont décrétés. Il y a des démonstrations médiatiques compassionnelles qui inondent les écrans et les radios. Et puis les jours passent et on retombe dans la routine, en attendant en quelque sorte le prochain drame ou les prochains attentats islamistes qui se produiront. Alors, le nombre de jours ou des minutes de silence sont organisés augmente. Et puis, il y a maintenant les commémorations qui deviennent de plus en plus nombreuses. On commémore les attentats qui se sont déroulés à Charlie Hebdo l'an dernier. Et ainsi de suite, après des minutes de silence, eh bien, augmente le nombre de commémorations. Donc comment pourrions-nous être indifférents à ce qui se passe autour de nous, avec les conséquences que subit notre pays? Nos concitoyens, il y a chez nos concitoyens un sentiment d'exaspération et de colère qui ne cesse de monter. Et le, si l'on peut résumer la situation en 10 heures, assez de paroles, des actes. Assez de paroles, des actes. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Et moi, je dois dire que dans l'échange que nous avons eu tout à l'heure au sujet des dépenses générées par les mineurs immigrés, eh bien, je constate qu'il y a un fossé idéologique entre les hommes et les hommes ici, et je suis effrayé par le déni qui continue à exister sur la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Mais toute la gauche ne partage pas ce que j'ai entendu ici ce matin. Les principaux responsables, à commencer par le Premier ministre Manuel Valls, ne cessent de dire que nous sommes en guerre. Il le dit, il le répète. Et il déclarait hier. Mais on va y venir. C'est pour pallier le déni dans lequel vous vous situez. Le Premier ministre Valls lui-même déclarait hier, on a fermé les yeux en Europe, en France, sur la progression des idées extrémistes, du salafisme et de l'islamisme. Donc le Premier ministre le dit. Donc quel rapport on va y venir? Parce que les problèmes, ils ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous, les problèmes. Il y a 1 500 000 immigrés qui sont rentrés l'an dernier sur l'Union européenne. Le ministre Drian, a déclaré lui aussi hier ou avant-hier qu'il y avait en plus 800 000 nouveaux immigrants qui étaient en Libye et qui attendaient de venir sur notre territoire. Mais tout ceci, la porosité des frontières de l'Union européenne, est un drame absolu. Alors face à la situation dans laquelle on est, nos concitoyens attendent des actes. Et quels peuvent être nos actes? On parle de ce fameux fichier. Et les Américains, lorsqu'il y a eu les Twin Towers au sol, ils ont immédiatement instauré les fichiers pour tout le trafic aérien. Et nous, ça fait des années, ça avait d'ailleurs commencé l'an dernier sous Sarkozy, ça fait des années que nous discutons pour essayer de mettre en œuvre ce fichier au niveau européen. Les frontières, j'ai entendu les socialistes convenir qu'il fallait que nous maîtrisions nos frontières. C'est évident. Sinon, nous connaîtrons ce qui se passe chaque fois qu'il y a l'ibanisation d'une société. Un jour ou l'autre, il y aura des risques de guerre civile dans ce pays. Parce que des Molenbeek, et je ne sais pas si vous avez noté ce qui s'est passé à Molenbeek, les policiers qui sont venus pour arrêter Ben Salah, là, eh bien, ils ont été caillassés par la population. Caillassés, c'est dire le nombre de territoires perdus de la République en Belgique, dans les pays européens, et chez nous. Eh bien, c'est désormais, il faut sortir du verbe pour passer à l'âme. Voilà donc le premier contexte dans lequel se situe cette discussion budgétaire. On ne peut pas ignorer ce qui se passe à l'extérieur, en Europe, plus en Belgique, parce qu'il y aura des conséquences, il y a déjà des conséquences au niveau de notre pays. Et puis, après ce contexte européen, français et bruxellois, il y a un contexte propre à notre département. Il y a un contexte propre à notre département parce qu'il y a un an, eh bien, se dérouler les premières élections départementales qui vont aller arriver 20 nouveaux élus sur 34. Et à cette époque-là, vous vous en souvenez certainement, le budget primitif pour 2015 avait déjà été voté par l'ancienne assemblée départementale. Aujourd'hui, c'est donc une grande première pour les 20 nouveaux élus de cette assemblée, conseillers départementaux, qui vont se prononcer pour la première fois sur le budget de notre collectivité. Au bout d'un an, vous savez désormais, même si certains feignaient d'en douter, que nous sommes une assemblée exclusivement politique, dont les membres soutiennent ou combattent les décisions prises par le gouvernement de la République, dont nous subissons les effets et les conséquences des décisions prises. Ça a été dit, mais je le répète, pourquoi m'en priverais-je? Après tout, c'est mon tour de parole. Eh bien, qu'il s'agisse de la DGF, en diminution continue, et dont la baisse en 4 ans représente une perte de 28 600 000 euros, qu'il s'agisse du reste à charge des AIS, d'un montant de 38 334 euros, soit 47% de la dépense provisionnelle pour 2016, avec en suspens la renégociation non aboutie de la discussion sur le RSA, qu'il s'agisse de tous les autres transferts de charges, y compris la prise en charge des mineurs immigrés, circulaire Taubira, qu'il s'agisse des conséquences sur le budget de l'augmentation de 1,2% du point d'indice de la fonction publique, qu'il s'agisse du fiasco de la réforme territoriale qui s'est traduite au final par davantage d'élus qu'avant et par une augmentation de la dépense publique. Et que dire, comment évoquer, ne pas évoquer ce qui s'est passé au plan national, et que dire de l'inversion supposée annoncée du chômage. Le seul espoir, c'est que ceci risque de continuer pendant un an, et si François Hollande respecte son engagement, il ne sera donc plus président, candidat aux prochaines élections présidentielles. Quant au déficit public dont parlait notre collègue là-bas tout à l'heure, pour se féliciter qu'il était arrivé, il était redescendu à 3-5%, je rappellerai, j'ai constamment sur moi les 60 engagements du candidat Hollande lors de sa campagne. Il disait, engagement numéro 9, deuxième engagement, je veux redresser nos finances publiques. Le déficit public sera réduit à 3% du premier intérieur brut en 2013. En 2013, nous sommes en 2016 et on est toujours loin des 3% annoncés lors de la campagne électorale. Donc, il faut arrêter de passer sous le tapis la poussière les conséquences des politiques menées au plan national. Dans ces conditions de déshérence de la politique gouvernementale, eh bien, voter le budget, un budget émanant d'une gauche départementale qui est idéologiquement dans l'accompagnement et l'acceptation de la ligne politique gouvernementale, dans ces conditions, qui plus est, voter le budget d'une assemblée dont tous les élus de gauche sont membres du comité de soutien à François Hollande, cela signifierait finalement que voter le budget, c'est voter François Hollande. Alors bien évidemment, vous vous doutez que nous voterons contre ce budget.